Des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Academy.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Laetitia DeWitt.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Parcours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Geneviève de Galard. Bonjour madame.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy. Alors en préparant cette émission Parcours, j'ai réalisé ô combien la seule évocation de votre nom soulève l'admiration. Votre courage et votre dévouement à Dien Bien Phu forcent toujours le respect, plus de 50 ans après les faits. Alors revenons à cette année 1954. Vous aviez 29 ans et engagé dans le corps des convoyeuses de l'air.
À 27 ans, je suis entrée dans l'armée de l'air. Les convoyeuses de l'air avaient été au départ des IPSA de la Croix-Rouge, recrutées pour faire le rapatriement des prisonniers et des déportés. Et à partir de 46, on a créé un groupe, les convoyeuses de l'air, qui faisait partie intégrale de l'armée de l'air. Et nous devions avoir le diplôme d'État et réussir un concours et signer un contrat avec l'armée de l'air. Alors, c'était mon cas quand je suis entrée le 15 janvier 53. Et en 53, c'était l'époque de Nassam. J'ai fait beaucoup d'évacuations sanitaires sur Nassam, et pas seulement sur Nassam, sur Laïcho, sur Xinguang, Luang Prabang, le Laos, enfin, partout où il y avait des opérations. Et puis, il y avait un détachement à Hanoï, le plus important, et un autre à Saïgon, où là, on faisait des évacuations sur Nha Trang, sur Vientiane, sur Phnom Penh, enfin, toute la région plus au sud. Et alors, en 53, lorsque j'ai eu terminé mes 3 mois en Indochine, parce que nous avions pas que l'Indochine à notre programme, nous avions des séjours de 3 mois en Indochine, de 2 mois en Algérie pour faire les transports des familles, des militaires, des affaires indigènes, et puis également toutes les lignes de l'Afrique francophone et des évacuations sanitaires, et nous participions quand il y avait des événements dramatiques comme le tremblement de terre de Mersel Kébir ou Agadir. Et là, je revenais de faire ces 3 mois en Indochine, j'avais été affectée à Alger, et j'étais à Alger au moment où le général Navarre a déclenché l'opération Castor. Le Laos était le premier pays à être entré dans l'Union française, avoir accepté l'indépendance dans ces conditions-là, et nous étions engagés à le défendre, et il était menacé par une invasion du Viet Minh, de la même façon que l'année d'avant, Nassam avait été un camp retranché créé pour protéger le Laos de l'invasion du Viet Minh. Et lorsque on a réussi à évacuer d'Assam dans de bonnes conditions, après que le Viet Minh, n'arrivant pas à prendre pied, se soit retiré. Je pense que pour le général Navarre, cet exemple lui a semblé une bonne chose. Malheureusement, il n'a pas écouté l'avis des aviateurs qui lui disaient « Dien Bien Phu est beaucoup plus loin d'Hanoï que ne l'était d'Assam ». Et ça s'est avéré évidemment dramatique. Et puis, la puissance de l'armée de l'air n'était pas suffisante, étant donné que c'était une grosse garnison et qui ne vivait que par les avions, surtout à partir du moment où elle a été totalement encerclée. Alors moi, je suis revenue en Indochine en janvier, et à ce moment-là, nous allions aussi souvent à Dien Bien Phu que l'année d'avant, nous allions à Assam. C'était devenu notre mission principale. Et à Dien Bien Phu, après l'opération Castor, ce qui s'est passé le 20 et le 21 novembre, on avait créé un hôpital souterrain. Et là, à partir du moment où il a été installé, eh bien, 2 convoyeuses étaient désignées chaque jour pour aller chercher les blessés, une le matin, une l'après-midi. Et parce qu'il y avait des blessés, pour éviter l'étranglement de cette position, tous les jours, les bataillons faisaient des sorties et étaient attaqués malheureusement de plus en plus près de la position centrale. Cette antenne, c'était un hôpital souterrain de 55 lits, 40 lits dans des abris individuels, et puis dans une plus grande salle qui était la salle de réanimation, 15 lits. Ça faisait donc 55 places. En plus de ça, évidemment, il y avait de la salle d'opération, la salle de réanimation, la salle radio, la salle de stérilisation, puis les abris du personnel des antennes. Et cette antenne avait été créée en novembre, après l'opération Castor, par un médecin capitaine qui n'était pas le docteur Grosvin. Le docteur Grosvin est arrivé par la suite parce que le médecin était tombé malade. Donc, moi, quand je suis revenue en janvier, tout ça fonctionnait parfaitement. Il n'y avait pas de problème, puisqu'il y avait deux avions sanitaires qui se posaient chaque jour. D'ailleurs, en plus des blessés, sur une grosse concentration de troupes, parce qu'en janvier, il y avait à peu près 10 000 hommes, il y avait des malades atteints de typhus, de dysenterie et de paludisme. Mais en janvier, il y a eu la conférence de Berlin qui s'est achevée par l'annonce de la conférence de Genève. Et ça a complètement changé la donne. Le général Giap, qui commandait les troupes Viet Minh, avait envisagé d'attaquer en janvier et il s'était rendu compte qu'il allait à un échec. Mais à partir du moment où on a annoncé la conférence de Genève, on s'acheminait vers une paix négociée, la Chine, qui depuis 1949, enfin la fin de la guerre et la victoire du communiste Mao Tse-tung sur le nationaliste Chiang Kai-shek, donnait une aide au Viet Minh, a multiplié par 10 cette aide. Et évidemment, les abris qui avaient été construits étaient faits pour résister aux canons Viet Minh, et ce sont des canons de 105 que les Chinois ont donnés et qui ont été hissés dans la jungle. Parce que Dien Bien Phu n'était pas une cuvette, c'était une plaine avec tous ces points d'appui au nom de femmes tout autour de la partie centrale qui était complètement plate et où il y avait les différents PC. Mais au-delà de ces points d'appui au nom de femmes, d'ailleurs, j'ai jamais su exactement pourquoi.
Eliane, Dominique,
oui, c'est ça. Et je pense que il y avait eu d'autres opérations. On avait pris des noms d'oiseaux. Il y avait eu Ouette, Albatros. On a choisi ça peut-être pour que ce soit un petit peu moins inhumain. Mais alors, au-delà de ces positions, c'était la jungle. Et le général Giap a provoqué une mobilisation générale de toute la population au Viet Minh, de gré ou de force d'ailleurs. Et là, 30 à 40 hommes étaient chargés de hisser un canon de 105 à la hauteur voulue. Et puis là, ils creusaient des galeries de façon à ce que le canon débouche directement sur Dien Bien Phu. Et dès qu'ils avaient tiré, ils étaient retirés en arrière. D'ailleurs, en plus, ils étaient camouflés par des branchages. Et ça a été terrible parce que le colonel Pirotte, qui commandait l'artillerie, avait dit dès que l'artillerie entrera en action, je la ferai taire. Et lorsqu'il s'est aperçu qu'il en était incapable, parce que le temps qu'on indique aux avions, là où ils devaient bombarder, il n'y avait plus rien. Le canon avait complètement disparu. Et dans un moment de désespoir, parce qu'il estimait qu'il n'avait pas pu tenir sa parole, il s'est suicidé. Et bien là, c'est ça. Alors, c'est le 13 mars qu'a eu lieu cette première grosse attaque. Et là, le bombardement sont arrivés sur la position centrale, tuant dans son abri le colonel Gaucher qui commandait toute la Légion et son adjoint. Et le lendemain, c'est l'antenne qui a pris un obus, qui a tué 35 blessés dans une salle de triage, qui a détruit le poste radio, puis qui a tué 7 blessés dans une salle de 12 où il y avait des blessés atteints à l'abdomen. Et là, il y a eu un moment tragique, puisque les blessés se sont entassés et les avions ne pouvaient pas venir les chercher.
Voilà, parce qu'il était plus possible de décoller et atterrir. Et
les avions s'étaient envolés dès l'attaque du 13 mars, mais l'attaque avait été tellement brutale que 4 avions avaient été cloués au sol. Et les 2 convoyeuses qui étaient là sur place avaient réussi à décoller avec des blessés, mais sans pouvoir faire le plein des blessés. Et puis le terrain avait été tellement bombardé que ce n'est que le 16 que le génie a pu remettre le terrain en action, parce qu'il y avait eu l'attaque du 13 au soir, l'attaque sur Béatrice, l'attaque du 14 au soir sur Gabriel. Et après ça, il y a eu quand même un temps de calme où le génie a pu remettre le terrain en état. Et quand on a demandé à un pilote qui venait de parachuter des hommes de se poser, eh bien, au moment de la dernière approche, l'artillerie est entrée en action avec une telle violence que le commandement de l'air, c'était le commandant Guérin, lui a donné l'ordre de rentrer sur Hanoï. C'était donc assez dramatique. Et le 17, pour la première fois, un avion a réussi à se poser. Il était peint d'une croix rouge et on pensait que les Viet Minh respecteraient. Au début, ils n'ont pas tiré. Et puis là, l'artillerie est entrée en action. Et là, quand les obus se sont rapprochés trop rapproché de l'avion, le pilote a actionné la sonnette qui indiquait qu'il allait rouler au sol et décoller. Et les blessés, qui étaient d'ailleurs des semi-valides, parce qu'ils se sont tous précipités, ont essayé d'en évacuer le plus possible, ce qui fait que ce soir-là, on n'a pas réussi à en évacuer des blessés graves. Et lorsque la convoyeuse qui était à bord, qui avait juste 21 ans, qui était la plus jeune d'entre nous, a fait le compte de ses blessés, il y en avait 32, et la majorité était encore massée dans la queue, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de s'installer sur les sièges métalliques de chaque côté de l'avion. Et ça a été presque miraculeux que le pilote arrive à prendre de l'altitude et à franchir l'altitude des points d'appui. Mais par chance, il y est arrivé. Et le lendemain, c'était donc le 18 mars 1954, un avion est venu et un médecin a accompagné la convoyeuse pour se rendre compte des difficultés. Et malgré son gilet pare-balles, il a été blessé, ce qui fait que l'avion a roulé au sol et a redécollé immédiatement sans pouvoir évacuer le moindre blessé. Heureusement, le 19, un excellent pilote a déplacé son avion et de façon à éviter les tirs et a pu évacuer une quinzaine de blessés. Mais tout ça, ça faisait très peu. Et le 19 au soir, il y avait 400 blessés qui sont tassés dans les abris. Et ces abris étaient vraiment pas très confortables. Enfin, chaud, humide, malodorant. Et il fallait trouver une solution. Et c'est le colonel Descaves qui commandait la base de Jiala à Hanoï qui a eu une idée de génie. Il s'est dit, bien, puisque nous ne pouvons plus nous poser de jour, nous allons tenter de nous poser de nuit à la barbe du Viet Minh. Et moi, le 19, je revenais à Hanoï. J'avais été détachée à Nha Trang pour 15 jours. On y allait à tour de rôle parce que le général Navarre avait lancé un troisième front dans la région de Nha Trang pour nettoyer cette région afin d'avoir ensuite les mains plus libres pour Dien Bien Phu et le delta de Tonkinois. Et ce jour-là, donc, je venais d'arriver puisque j'avais encore à côté de moi mon poste à oxygène, ma trousse sanitaire. Le téléphone a sonné et c'était ma camarade, celle qui avait été dans l'avion peint d'une croix rouge, qui était là d'alerte. Toutes les autres étaient sur le terrain de Bac Bai. Elle décroche et quand elle revient, elle me dit, bien, on demande de toute urgence une convoyeuse sur le terrain de Jialam. Je suis déjà allée une fois à Dien Bien Phu. Si tu veux, tu peux y aller. Je me suis pas fait dire deux fois et lorsque je suis arrivée au terrain, les moteurs tournaient déjà et le colonel Descaves nous a expliqué ce qui allait se passer. Pourquoi faire venir une convoyeuse de la villa plutôt que d'une de celles qui étaient en alerte à Bac Bai? C'est que Bac Bai et Jialam, les deux terrains étaient à l'opposé l'un de l'autre et donc très éloignés. Et il était plus rapide d'en transférer une de la villa des convoyeuses qui était à Hanoï sur le terrain de Jialam que d'aller de Bac Bai à Jialam. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de faire cette première évacuation de nuit qui a été extraordinaire. Évidemment, il y avait quand même pas mal d'angoisse à bord de l'avion puisque les trois précédents avaient été l'objet des tirs d'artillerie. Et un avait même été touché, celui du 18 mars. Et il nous a expliqué que nous allions nous poser sur une piste qui serait balisée par trois petites lampes, deux qui indiquaient l'entrée et la troisième l'extrémité de la piste. Et qu'ils allaient se poser, moteur coupé, de façon à ce que... il y ait le moins de bruit possible et que le bruit de notre arrivée soit camouflé par les moteurs de l'avion qui tournerait au-dessus d'Yen Bien Phu. Et il avait donné des instructions pour qu'on prépare d'abord 13 blessés semi-valides, capables de monter par eux-mêmes dans l'avion, parce que nous avions 3 minutes, il fallait qu'en moins de 3 minutes, on ait évacué les blessés. Et à cause du danger des tirs, qui, dès qu'ils l'auraient repéré, eh bien, ajusteraient leurs tirs. Et alors moi, j'avoue que j'ai beaucoup prié dans l'avion, puisque j'ai la foi, et en me demandant que cette tentative réussisse, c'était quelque chose de tellement extraordinaire, mais on était quand même tendu, mais confiant. Et d'ailleurs, lorsque l'avion a roulé au sol et est arrivé auprès des ambulances, la porte s'est ouverte, pas un bruit, pas un tir d'artillerie. Les infirmiers de l'antenne que je connaissais bien ont fait monter les 13 premiers blessés, puis m'ont installé à poser au sol 6 brancards, c'était ce qui avait été prévu pour aller très vite. Et puis nous sommes repartis sans que je n'aie cette impression d'une descente dans l'enfer à travers leurs mines fatiguées, mal rasées, leurs casques sur la tête. Et nous disions, nous avons bien de la chance parce que dans 1h20, 1h30, nous serons en sécurité à Hanoï. Et parmi mes blessés graves, donc sur un brancard, il y avait un des miraculés. Un des 5 blessés de l'abdomen qui n'avait pas été tué lorsque l'abri avait été perforé par un obus. Et nous étions très heureux et nous disions, puisque nous sommes arrivés, on va pouvoir recommencer. Malheureusement, après le 5e posé, le Viet Minh se sont aperçus de la manœuvre et on a dû faire demi-tour aux 3 derniers avions. Et ensuite, on a laissé passer 48 heures avant de reprendre.
Donc le 28 mars.
Alors là, c'était seulement le 19 mars. Et à partir du 21 ou le 22, on a repris ces évacuations. Et chaque soir, le chef des opérations nous disait l'heure des décollages et notre chef d'équipe nous désignait à tour de rôle. Il y avait un ou deux, une fois même, il y a eu 3 avions. Et c'était justement lorsque est revenu mon tour pour la deuxième fois, la nuit du 26 au 27 mars. Et c'est là que les ambulances n'étant pas au rendez-vous, et le temps passant, bien le pilote a craint que l'avion ne soit détruit et est reparti. Et j'étais tellement désolée que j'ai demandé à repartir la nuit suivante. Et ce soir-là, il n'y avait qu'un seul avion. C'était donc la nuit du 27 au 28. En fait, nous étions partis le 28 au matin. La nuit était très noire. Le pilote, au 3e essai, s'est posé avec vraiment la volonté de sauver ses blessés. Et il est légèrement sorti de la piste. Le choc n'a pas été très fort. On avait déjà installé les blessés lorsque le mécanicien est revenu effondré nous dire « nous ne pouvons pas repartir ». Un piquet de barbelé a crevé le réservoir d'huile. La pression d'huile est à 0. Et il a fallu…
Et alors là,
comme les jours suivants, la météo a été mauvaise et il y a eu la deuxième grosse attaque qui s'est passée le 30 au soir. Et à partir de ce moment-là, quand ça s'est calmé au bout de quelques jours, parce qu'il y avait toujours une période d'accalmie, ça s'est calmé seulement le 5 avril. Et le terrain était en partie tombé au bien du Viet Minh et il n'était plus question que…
Plus praticable. Donc là, vous avez donc passé 2 mois.
Alors oui, c'est ça. Pas tout à fait, oui. C'est-à-dire que Dien Bien Phu est tombé le 7 mai et puis je suis restée jusqu'au jour de ma libération le 24 mai.
Et vous êtes restée pendant tout ce laps de temps à l'antenne centrale.
Voilà. Parce que le docteur Grovin, au début, les premiers jours, c'était je parais au plus pressé, j'ai aidé les plus graves, j'ai accompagné des mourants et j'ai aidé un jeune aveugle qui était incapable. Non seulement il avait perdu les yeux, mais il avait perdu des doigts à chaque pain. Alors je le faisais boire ou manger ou je faisais fumer une cigarette. Et puis quand les choses se sont calmées et qu'on s'est un peu organisé, le docteur Grovin m'a rendu responsable des 40 plus gros blessés. Il y avait un autre qui était responsable de la salle de réanimation, puis il y avait tous ceux qui étaient les aides opératoires, les aides stérilisateurs, tout ce personnel de l'antenne qui avait chacun un rôle bien déterminé. Mais comme les blessés étaient évacués, personne n'était vraiment responsable de ce qui est devenu un petit hôpital.
Même qui est devenu pas si petit.
40 lits.
Mais au fur et à mesure, on a pu
agrandir en faisant récupérer des abris voisins. On a pu déplacer des hommes du GCMA qui ne pouvaient plus jouer leur rôle à partir du moment où on était encerclé. Et là, on mettait les blessés plus légers ou qui avaient des plâtres ou qui ne nécessitaient que des antibiotiques. Mais mon rôle est toujours resté responsable des 40 plus gros blessés. J'avais l'aide d'un légionnaire qui m'aidait pour les gros pansements et pour transporter le matériel.
Alors, vous dites que votre rôle était en effet de soigner ces blessés, mais dans tous les témoignages qu'on peut lire, votre rôle était aussi énormément de les réconforter. Et c'est ce qui vous a valu, toute cette popularité. Vous êtes retrouvée la seule femme au milieu de tous ces soldats et de tous ces blessés qui étaient des gros blessés. Vous avez été d'une part, on sent très bien que vous avez été à la fois émue et encouragée, et comme si des ailes vous poussaient justement face à leur courage et leur bravoure. Et eux-mêmes, le seul réconfort qu'ils trouvaient dans ces moments difficiles, c'était votre regard, vos attentions.
Et peut-être même le seul fait d'une présence féminine.
Oui, qui leur a pris leur mère, leur sœur. Voilà, ce que
je dis, c'est pas parce que c'était moi, puisque un jeune lieutenant qui était sur Isabelle, la seule position qui était éloignée de 5 kilomètres, ça c'était pour permettre un appui réciproque de l'artillerie. Un jour au téléphone, quand je lui ai envoyé mon livre, m'a dit, mais vous pouvez pas savoir ce que ça a été pour nous de savoir qu'il y avait une femme, une infirmière française au milieu des blessés sur la position centrale, alors que eux n'ont jamais pu en profiter.
Oui, parce qu'on l'a, j'ai oublié de le préciser en introduction de l'émission. Donc, tout ça se passe en 1954. Donc, le Dien Bien Phu tombe le 7 mai. Vous restez encore quasiment 3 semaines sur place. Après, vous êtes libéré et à votre libération, donc, un énorme mouvement populaire s'empare, je dirais, de vous et de votre histoire. Mais vous n'avez jamais vraiment raconté à ce moment-là ce qui s'était passé. Vous aviez peur de cette publicité.
Oui.
Vous la trouviez en décalage par rapport
Exactement.
À ce que vous veniez de vivre.
Oui. Moi, j'avoue que j'ai jamais regretté de m'être trouvé bloqué à Dien Bien Phu, parce que les premiers jours ont été atroces, parce que c'était quand même mon premier contact, la première nuit, mais ce bruit infernal, on avait un sentiment de fin du monde, on s'attendait à ce que les abris soient ouverts par les obus, mais heureusement, entre l'attaque du 13 mars et celle du 30, ils avaient été consolidés par le génie quand on s'était rendu compte de la force de l'artillerie Viet Minh. Et là, ça a été vraiment affreux ces 3 premiers jours. Pour moi, ça a été 3. On dit qu'il y en a eu 5 jusqu'au 5 avril, mais c'est surtout les 3 premiers parce que de voir arriver ces blessés couverts de boue et de sang, et très vite de même pas pouvoir les mettre à l'abri, c'est ça qui était dramatique. Non seulement on n'a pas pu les opérer dans les délais voulus, le docteur Grovin, qui lui était chargé du triage, pendant que le deuxième chirurgien qui avait été envoyé avec son antenne, c'était 2 antennes, c'était pas l'un adjoint de l'autre, c'était 2 antennes, et la deuxième avait été envoyée en janvier, eh bien lui, il n'arrêtait pas d'opérer, et le docteur Grovin, il opérait, mais il avait d'abord ce travail, ces décisions dramatiques à prendre entre un blessé de l'abdomen dont l'opération était longue et 5 ou 6 amputations. Ben, il fallait qu'il décide s'il sauvait un homme ou s'il en trouvait 5 ou 6. Et là, ça a été moralement quelque chose d'épouvantable. Mais après, quand les choses se sont organisées et que j'ai pu les soulager, je n'avais plus envie de repartir. Vous voyez, tout le monde espérait la fin de cette deuxième attaque pour que les évacuations reprennent. Et moi, je me disais, bon, on me demandera pas mon avis, puisque je suis là non pas pour soigner les blessés au sol, mais pour les soigner à bord de l'avion, puisque du fait de l'altitude, il y a des troubles, les perfusions se dérèglent, il y a des blessures qui se remettent à saigner, il faut donner des toniques cardiaques ou de l'oxygène. Et là, quand on m'a dit, ben, c'est fini, les avions ne se poseront plus, j'étais désolée pour les blessés qui ne rêvaient que d'une chose, c'est d'être évacués. Mais pour moi, ça a été une sorte de soulagement parce que ils n'auraient pas pu comprendre que je les abandonne. Et moi, ça m'aurait été une torture de les abandonner.
Et donc finalement, vous avez mis plus de 50 ans à raconter ces souvenirs. Puis vous avez attendu le cinquantenaire de la bataille de...
Non, j'ai attendu qu'on m'en fasse un devoir, le devoir de mémoire. C'est Élite Saint-Marc qui a...
C'est ce que vous racontez en introduction,
oui,
donc vous avez pu...
C'est vrai. D'abord, j'avais reçu une lettre de lui à mon arrivée en France, signée par tous ces jeunes officiers, il était capitaine,
donc...
me disant pas de publicité, pas de film, mais c'était pas du tout dans mes intentions. Les accords de Genève n'étaient pas encore signés, et les prisonniers partaient dans les camps. Et à part les 858 blessés prisonniers qui ont été libérés, tous les autres blessés sont partis dans les camps, où là, ça a été dramatique. Les pansements ont été refaits tous les 15 jours, les plâtres, quand ils étaient complètement ramollis, ça a été quelque chose d'affreux. Et puis, ceux qui n'étaient pas blessés, et même ceux qui étaient blessés légèrement, ont eu à faire des marches de 5 à 600 kilomètres. Et il y a eu une mortalité dramatique dans ces camps, plus de 70%. Ça a été quelque chose d'affreux. Et comment voulez-vous que moi, je fasse parler de moi à ce moment-là où j'avais peur que chacune de mes paroles soit déformée et ne nuise à mes camarades. Et puis, je trouvais que j'avais fait que mon devoir et je voyais pas pourquoi on faisait tout ce battage autour de moi. Et quand les Américains ont voulu faire un film, j'ai carrément refusé.
Mais... Et donc finalement, fin 2003, vous avez publié un livre, Une femme à Dien Bien Phu.
En octobre 2003, parce que, voyons, c'était en 99, j'ai reçu un coup de téléphone d'Élie Saint-Marc me disant, moi j'étais comme vous, je ne voulais pas parler, et puis un de mes neveux m'a demandé s'il pouvait pas faire un mémoire sur ce que j'avais vécu, et ça a eu un tel impact sur les jeunes que je me suis rendu compte que nous devions ce témoignage aux jeunes. Et moi je lui ai dit, écoutez, moi je suis pas écrivain. Oh, il me dit, mon neveu pourra vous aider. Mais j'étais à ce moment-là conseiller à la mairie du 17e arrondissement. J'y étais 3 mandatures, 18 ans, pas du tout comme disponible. Politique, mais pour une action municipale où je m'occupais évidemment des problèmes d'anciens combattants, mais surtout aussi des problèmes d'intégration scolaire des jeunes handicapés et des associations. Et là, je pouvais pas faire 2 choses à la fois. Ce n'est qu'une fois que j'ai eu terminé ce mandat, je n'avais plus l'âge de me représenter, et puis je n'avais plus envie. Il y avait une désunion dans tous ces milieux politiques qui m'avait un peu choquée. Et là, eh bien, je me suis replongée dans tout. J'ai commencé des rangements. Je suis retombée sur cette lettre d'Élie Saint-Marc et je me suis dit, si vraiment je dois faire quelque chose, si je dois porter ce témoignage, c'est maintenant que je peux le faire. Et quand je lui ai téléphoné, il m'a dit, mais mon neveu maintenant est éditeur, il n'a plus le temps. Enfin, finalement, je me trouvais au début. Laurent Beccaria m'a dit, si, je vais m'arranger, ça me passionnerait de pouvoir le faire avec vous. Puis il s'est rendu compte que c'était pas possible. J'étais engagée avec lui et c'est lui qui a édité le livre, l'édition Les Arènes. Voilà.
Voilà. Donc, d'ailleurs, qui vous a valu le Grand Prix de l'Académie.
Ah oui. Ah oui.
Donc, en novembre 2004, vous avez
Exactement.
Été reçu sous la coupole.
Le 15 novembre 2004, et c'est un souvenir extraordinaire parce que c'était Monsieur Henri Amouroux qui est décédé malheureusement maintenant et qui a prononcé un magnifique discours. Et ça s'est terminé où il a fait allusion à mon passage au Congrès aux États-Unis où un membre du Congrès...
On va y revenir on va peut-être repartir justement à Dien Bien Phu. Oui. Donc pendant ces 2 mois, vous partagez le sort des soldats, vous les soulagez, enfin vous leur apportez soin. Et en effet, j'ai remarqué que vous n'aimez pas beaucoup, parce que c'est ce que vous racontez dans votre livre, vous n'aimez pas beaucoup quand on qualifie vos actes d'héroïques. Vous dites non, c'est les circonstances finalement qui ont fait. J'ai fait ce que j'avais à faire.
Exactement. Et si jamais, si je n'avais pas été seule, si on avait été plusieurs, on n'aurait jamais fait ce battage. C'est parce que j'étais seule. Mais en fait, la seule façon où j'ai un peu forcé le destin, c'est que n'ayant pas pu ramener de blessés la nuit du 27. Du 26 au 27, j'ai insisté auprès de mon chef d'équipe qui a un peu discuté puis qui a fini à accepter. J'avais tellement le sentiment de ne pas avoir rempli ma mission.
C'est un autre aspect qui apparaît très bien dans votre livre, c'est qu'au départ, vous parlez de vos racines familiales et de votre formation, votre foi, votre très forte foi chrétienne. Et on sent très bien dans le livre que ce sont des choses qui vous ont porté, justement. Vous étiez toujours convaincu d'avoir une mission à accomplir.
On était toutes comme ça. On était toutes. Vous savez, je crois que personne n'aurait donné sa place à l'autre. Oui, on était toutes volontaires. Bon, il y en a une, je ne sais pas si elle s'est retrouvée une troisième fois, parce que les 2 fois où elle y est allée, une fois, c'est le pilote qui a été blessé dans l'avion avec le mécanicien, et la fois précédente, ça avait été le médecin, vous voyez. 2 fois, elle a risqué sa vie pour ne pas sauver un seul blessé. Et celle-là, je ne sais pas si elle serait retournée une troisième fois, mais moi, je tire quand même mon chapeau, parce qu'elle y est allée 2 fois. Et elle a pris des risques énormes, puisque... Elle est passée plus près de la mort que moi.
Donc finalement, vous êtes libérée fin mai 1954. Vous êtes rapatriée à Hanoï. Et déjà à Hanoï, une foule immense vous accueille. À Paris, ça sera la même chose. Vous faites la une de Paris Match. Tout le monde ne parle plus que de vous. Et vous avez l'air un peu effrayée par tout ce tapage. Vous, une de vos principales missions à ce moment-là, c'est justement de répondre aux familles et d'accomplir votre devoir.
Effrayée et révoltée. Parce qu'une fois où je refusais de répondre, de recevoir les journalistes, il y a eu un article disant que devant les femmes de prisonniers qui se pressaient à ma porte, j'avais dit pitié, pitié, je suis fatiguée. Alors ça m'a révoltée. J'ai eu droit à 2 lignes de rectificatif que personne n'a vu. Mais là, vraiment, je me suis dit, mais vraiment, si ces femmes pensent une chose pareille, mais elles doivent trouver que je suis épouvantable. Et moi, je ne pensais qu'à ceux que j'avais laissés derrière moi là-bas.
Oui, c'est ça. Et finalement, c'est toujours ce qui vous a motivé. Et vous avez hésité, je crois, à accepter l'invitation américaine. Et finalement, vous l'avez donc.
On m'a obligé. J'ai d'abord dit non.
Et merveilleux épisode. Il faut que vous nous racontiez. Oui, ça, c'est une histoire extraordinaire, puisque vous êtes la première femme, d'ailleurs, je crois,
Avoir reçu la médaille de la liberté,
du président Eisenhower.
Et on me dit souvent, mais pourquoi cet accueil aux États-Unis est beaucoup plus important qu'en France? Mais il ne faut pas oublier que la guerre n'était pas terminée, que Dien Bien Phu était quand même une défaite, et qu'il y avait tous ces hommes qui étaient prisonniers dans des conditions épouvantables. Alors, vraiment, je ne sais pas, moi j'aurais trouvé ça choquant, et c'est pour ça que je trouvais choquant d'aller me faire fêter comme une star ou comme une reine aux États-Unis. Mais on m'a tellement dit que, à travers moi, c'était les combattants de Dien Bien Phu que les Américains voulaient honorer et que j'ai accepté dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, je le rappelais plusieurs fois que c'était à eux qu'allaient tous ces hommages.
Et donc, vous êtes accueillis.
D'une façon extraordinaire.
Extraordinaire. Ah,
cette descente de Broadway sous les confettis. Et vraiment, c'était un petit peu irréel. Et j'avais ce sentiment de dédoublement. À la fois, j'étais bien là, assise à l'arrière de la voiture, avec une magnifique gerbe de fleurs dans les bras. Et en même temps, j'étais un petit peu en retrait, spectatrice de cette chose extraordinaire qui se passait.
Ils ont été très
accueillants. Et puis, j'ai pas du tout été ennuyée par les journalistes comme je l'avais été à Paris où j'ai été suivie, coursée, obligée de faire appel à un agent de police pour qu'il bloque les autos et qu'il fasse circuler celui qui ne voulait pas me lâcher.
Donc, après votre voyage aux États-Unis, vous rentrez en France et là, vous réalisez que finalement, quand même, ces 2 mois, quoi qu'il soit passé, ont transformé votre vie. Vous ne pouvez plus vivre comme avant, je dirais. Et vous avez un moment où vous vous posez la question de savoir comment vivre, rester fidèle à votre passé.
Et c'est-à-dire, je me suis posé cette question plutôt quand j'ai quitté l'armée. Parce que là, eh bien, une fois que j'ai eu mon congé, alors mon congé, enfin, c'est pas vraiment un congé, puisque pendant un mois, je faisais 12 heures de courrier par jour pour répondre aux familles qui m'envoyaient des photos. Et puis après, il y a eu ce voyage aux États-Unis qui a été sympathique, mais qui était quand même fatigant. Alors là, on m'a redonné 10 de jours de congé et puis j'ai repris mon travail de convoyeuse. Et là, c'est ça, je pense, qui m'a sauvée, qui m'a permis de me réadapter parce que je continuais à vivre en milieu militaire et que partout où on allait, on en retrouvait. Moi, je me rappelle, quand je faisais les circuits sahariens, on s'est posé à Seba, qui est où il y a un poste de légionnaire très important. Et là, il y avait 35 anciens Dien Bien Phu qui étaient présents. Alors, ils m'ont fait fête, ils m'ont emmené faire des grands radada en jeep dans les sables. Enfin, c'était assez extraordinaire. Et puis, une amitié, une sympathie, une camaraderie enfin, qui m'ont porté. Et j'avoue que quand actuellement je suis trop fatiguée dans les périodes où j'ai trop de conférences, eh bien c'est la sympathie manifestée qui m'aide à tenir le coup.
Oui, parce que finalement ce souvenir, vous allez le porter donc tout au long de votre vie. Depuis votre livre, c'est encore plus présent. Et vous me racontiez juste avant qu'on commence l'émission deux expériences assez récentes, puisque vous êtes sollicité dans des collèges ou des lycées pour raconter votre histoire. Et vous avez été très touché lors d'une réception récente par des classes de 3e. Et
j'ai parlé devant 250 élèves de 3e. On avait réuni toutes les élèves, toutes les 3e. Il devait y en avoir 8 classes. Et en fait, c'était un peu dans le cadre de la catéchèse, puisque le thème était l'engagement. Donc, j'ai parlé de Dien Bien Phu, mais j'ai aussi dit un certain nombre de donné aux jeunes un certain nombre d'éléments pour qu'ils essayent de trouver le sens de leur vie, donner un sens à leur vie, être droit, honnête, courageux. Et après, le professeur d'une des classes m'a envoyé une photo tirée sur papier de ces photos numériques et elle avait demandé à ses 30 élèves de mettre un petit mot. Et un garçon a écrit cette chose remarquable. « Merci madame d'avoir redonné vie à ceux qui l'avaient perdu au service de la France. » Ça, j'avoue que c'est quelque chose d'assez extraordinaire et même le professeur n'en revenait pas. Il pensait pas que cet enfant avait ces sentiments aussi profonds. Et souvent, les garçons sont plus pudiques et n'osent pas raconter.
Donc, vous voilà convaincu en effet de l'œuvre de...
C'est pour ça que je continue. Et maintenant, quand on me demande de parler devant des adultes, je leur dis oui, je veux bien venir, mais à condition que vous fassiez venir des jeunes ou que vous organisiez quelque chose pour les jeunes. Et ainsi, je vais aller à Nancy, invité par la Légion d'honneur, là, le 28 mars, et j'ai demandé à aller dans un collège. Et ça, la fille d'une de mes amies qui avait pas mal de responsabilités dans l'enseignement libre, et je vais aller dans un collège l'après-midi, et puis le soir, c'est un peu dur, deux fois dans la journée, mais je trouve que ça vaut le coup, parce que dans l'enseignement d'État, je ne suis pas tellement souvent sollicitée. Si, quand même, par les professeurs, individuellement, quand ils m'ont entendu à une des conférences, ils ont envie d'en faire profiter leurs élèves.
Bon, oui, écoutez, merci beaucoup. Je voudrais juste aussi rappeler à nos éditeurs que votre contrat s'est terminé avec l'armée de l'air, vous avez continué votre engagement finalement puisque vous avez soigné vous êtes retrouvé aux Invalides à soigner des blessés. Toute votre vie, vous avez fait preuve d'un don de soi, je dirais, vous avez essayé d'aider les autres.
Mais je crois qu'on ne peut pas choisir la profession d'infirmière si on n'a pas un désir de se dévouer. C'est pas une profession, c'est une vocation.
Et vous avez gardé aussi un grand attachement à l'armée, et d'ailleurs votre époux voilà. Aussi, que vous aviez rencontré à Hanoï.
J'ai gardé ces contacts. En fait, nous avons même une parenté, puisque... mon mari descend d'un frère du ministre Villèle qui a fait souche à La Réunion et la sœur du ministre Villèle a épousé un galartéro dont je descends. ce qui fait que quand je suis partie en Indochine et que maman était assez inquiète, une vieille tante commune aux deux m'avait donné l'adresse de son neveu qui était le père de celui qui est devenu mon mari. Voilà. Mais j'avoue que j'aurais eu du mal à ne pas pouvoir partager tout ça. Parmi mes camarades convoyeuses, il y en a une, justement celle qui m'avait fait connaître l'existence des convoyeuses, qui était un tout petit corps, et son mari était civil, et elle n'a jamais pu échanger avec lui. Et ça, je crois que...
Un autre aspect très touchant dans votre livre, c'est que vous insistez sur le courage de tous ces combattants. Vous donnez de nombreux exemples où, en effet, on voit un amputé des deux jambes qui trouve encore le moyen de plaisanter et qui vous dit « oui, je vous inviterai à danser quand tout ça sera fini ».
Et d'ailleurs, il était très courageux parce que on n'avait pas pu refermer les moignons étant donné les risques d'infection et les pansements se faisaient à vif. Et j'étais obligée souvent de faire une piqûre de morphine. Et quand il a été un peu mieux, on a été là, lui sautant à cloche-pied sur son unique jambe et s'appuyant de son moignon sur mon épaule pour aller à l'extrémité du couloir, voir un petit coin de ciel bleu, respirer un peu d'air pur. Et il m'a dit, quand tout sera terminé, je vous emmènerai danser. Et il venait aux réunions des anciens, et pas les dernières années, mais il venait, il mettait de l'animation. Et quand il était hospitalisé au Val-de-Grâce, eh bien la femme d'un des trois autres, il était dans une chambre de quatre, m'a dit, mais c'était le plus touché. Et c'était lui qui remontait le moral de ses camarades. Et le jeune aveugle, qui vit toujours, il s'est créé, malgré son handicap, un atelier où il fait des modèles réduits. C'est assez extraordinaire, je trouve, parce que être courageux au combat, il y en a eu des tas d'exemples de courage au combat, mais être courageux dans la souffrance, dans ses abris, moi je trouve c'est quand même presque surhumain.
Oui, un autre qui était touché à la moelle épinière,
oui, à l'art du
tragique
là,
histoire.
Je suis restée auprès de lui. Au moment où il rendait le dernier soupir, et on l'avait soulagé par de la morphine. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer sa sœur. Ils étaient deux d'enfants, ils avaient perdu leurs parents. Et pour elle, ça a été extraordinaire que je puisse lui raconter les derniers moments de son frère. Mais il était très angoissé. Et nous, on savait que c'était inéluctable, puisqu'il y avait une section de la moelle épinière. Mais je voudrais citer quand même des exemples de un exemple assez extraordinaire, ça a été la reprise d'une des positions par le commandant Bijard, qui était responsable des contre-attaques. Il avait engagé 5 bataillons, dont le bataillon des parachutistes vietnamiens, qui sont montés au combat sous nos yeux, puisque à 5h du matin, quand le jour s'est levé, on est sorti des abris pour voir, étant donné que la concentration des tirs était sur Eliana. Et quand les petits Vietnamiens ont été engagés, comme ils n'avaient pas d'hymne national, ils sont montés au combat en chantant la Marseillaise, et ça a été assez extraordinaire, et on est tout de suite allé raconter ça à nos blessés, et ces faits d'armes leur remontaient leur morale et leur permettaient de tenir le coup. Un autre moment aussi très très touchant et en même temps très heureux, ça a été le sauvetage du lieutenant de vaisseau Klotz, qui avait été touché en parachute, qui s'était éjecté, mais s'était démis l'épaule. Il souffrait beaucoup et il restait tapis dans la tranchée. Et c'est une section de légionnaires qui est allée le récupérer avant que les Viet Minh ne le fassent prisonnier. Puis on nous l'a amené à l'antenne. Et là, une fois qu'il a été soigné, on a sablé le champagne en son honneur. Et lui et le docteur Gindré, le deuxième chirurgien, s'étaient connus à l'école primaire.
Ces moments sont précieux dans de telles circonstances.
Et je crois qu'il faudrait quand même que je dise quelque chose qui certainement m'a aidée moralement. C'est quand un jour le colonel Langlais a voulu visiter l'extension de l'antenne qu'on avait obtenue pour les blessés légers en déplaçant les hommes du GCMA. Et on est arrivé à l'extrémité, il y avait un parachute qui fermait un passage. Et il m'a dit « qu'est-ce que c'est ?» J'ai dit « je ne sais pas ». Et il a ouvert et j'ai vu un lit de camp et un fauteuil en rotin. Et il me dit « ça, c'est pour vous ». Il avait appris par le docteur Grovin que pendant 3 semaines, quand j'avais un moment de repos, j'ouvrais un brancard entre 2 blessés et puis je le refermais ensuite. Et cette attention, alors que cet homme avait d'énormes responsabilités, d'abord responsable de tous les paras et ensuite de toutes les forces d'intervention. Et longtemps après, il m'a dit « oui, je comprends que votre présence a été une aide pour les blessés, mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'elle avait été aussi une aide pour les combattants. »
Très belle histoire.
Ouais, c'est très émouvant.
Merci infiniment, Madame de Gallard, d'avoir retracé votre émouvant parcours et nous avoir fait revivre cette page d'héroïsme de l'armée française. Je renvoie nos auditeurs à votre livre, Une femme à Dien Bien Phu. Restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci.